Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast spécial Forum des métiers organisé pour célébrer les 400 ans de la marine. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre d'un professionnel pour découvrir un métier passionnant et exigeant, celui de marin dans la marine nationale. Nous avons la chance d'accueillir Monsieur Pelletier qui va nous parler de son parcours, de son quotidien en mer, des qualités nécessaires pour exercer ce métier et de ses conseils pour les jeunes qui aimeraient suivre la même voie. Merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur Pelletier. Pour commencer cette interview, je vais tout de suite donner la parole à Céline qui va vous poser une première question.
Bonjour Monsieur Pelletier, alors la première question c'est pourquoi vous êtes-vous engagé dans la Marine Nationale ?
Bonjour, pourquoi je me suis engagé dans la Marine Nationale ? Je pense que c'est à peu près pour les valeurs de base qu'on nous apprend, alors tout ce qui est discipline, l'état d'esprit qu'on peut avoir dans la Marine, et l'esprit cohésion. Moi je suis fusilier marin, on a souvent des gens de notre tranche d'âge où on est tous là pour le sport, le dépassement de soi. Et en intégrant la marine avec tout cet ensemble-là, il y a aussi le fait d'évoluer dans une institution où on peut partir de la première porte qui est des matelots et évoluer progressivement et avoir une carrière diverse et variée. Je dirais que c'est pour ça que je me suis engagé.
Et si ça aurait été à refaire, le referiez-vous ?
Je pense sans hésiter, avec du recul peut-être différemment. J'aurais peut-être entamé d'autres concours pour éventuellement rentrer par un autre niveau d'emploi éventuellement. Peut-être d'autres métiers parce que c'est tellement varié qu'avec un peu de curiosité, on a envie de toucher à tout. Alors oui, ce sera à refaire, mais peut-être différemment.
Bonjour Monsieur Pelletier, quelles études faire pour rentrer dans la Marine Nationale ?
Alors là, c'est une question qui est vraiment vaste. La Marine Nationale, ça englobe plein de métiers. Une personne qui déjà sans diplôme peut rentrer dans la Marine et rentrer par la voie des matelots. Une personne avec le bac peut aussi entrer pour la voie des mestranciers, c'est second maître, officier marinier. Et ceux qui ont des bagages plus élevés, bac plus 3 et plus, peuvent prétendre au concours officier. Alors là, c'est juste pour le socle dans quelle voie entrer en termes de hiérarchie, de responsabilité de fonction. Et après, ça peut être sur des spécialités techniques. Et là, si on a un domaine qu'on recherche spécifiquement, il faut savoir s'orienter. Et en avance de phase, c'est toujours bien de savoir ce qu'on veut faire dans la marine avant de s'engager dans un cursus.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre mission à Abu Dhabi ?
Alors moi, je suis ici pour un séjour de 3 ans. Je suis affecté à la base navale d'Abu Dhabi et j'ai comme rôle du service général dans la base navale. Alors ça a un rapport avec la discipline, faire en sorte que sur la base navale, il n'y a pas de dérive de comportement, qu'il y ait une discipline militaire. Et ça, c'est pour la vie à bord dans la marine. Mais à côté de tout ça, on est aussi le soutien pour tous les bâtiments de guerre de l'armée française qui viennent en escale et qui demandent du soutien, que ce soit dans le ravitaillement ou plein de domaines. Et moi, en termes de plongée, j'ai aussi ce vecteur-là où je peux soutenir toutes les parties de l'armée française.
Quel est votre parcours dans l'armée ?
Alors, je viens d'un bagage où je suis parti un peu dans l'impulsion, où je voulais m'engager sans le bac. Je ne l'ai pas terminé, j'étais issu d'un bac pro-vente et encore avant, plein de voies différentes, CAP électricité, BEP maintenance. Et dans ma carrière, je suis rentré par la voie des quartiers maîtres de la flotte, ce qui équivaut à la voie que quand on sort, on devient matelot. Et ma spécialité, c'est fusilier. Alors c'est une formation qui est exigeante, tant bien physiquement, et on apprend à se connaître. Et c'est une formation qui est quand même très difficile, mais accessible à tout le monde, ça je vous rassure. Et après cette sortie de formation qui était exigeante, où on découvre l'univers militaire, le port de l'uniforme, j'ai décidé de quitter, parce que c'est aussi ça la marine, voyager à l'aventure, de quitter la Bretagne pour partir le plus loin en restant en métropole, parce que sortie d'affectation, on a rarement des affectations à l'étranger. Bon, je suis parti à Toulon découvrir un peu cette région qui m'était inconnue pour accéder à un groupement de fusiliers marins et découvrir justement ce métier. La formation, c'est une chose, et après y travailler, on voit un autre milieu. Et après quelques années, j'ai décidé d'évoluer et passer par le brevet d'aptitude technique, ce qu'on appelle pour faire chef d'équipe, et ce qui équivaut au milieu civil à avoir le bac. Et là, on part sur des responsabilités où on peut avoir des équipiers, sa responsabilité. Et à l'issue de cette formation qui avait lieu également en Bretagne, à Lorient, comme ma première formation, je décide à nouveau de retourner dans le sud parce que c'est une région qui est plaisante et qui est hyper dynamique pour la partie marine, parce qu'on a un grand port qui est la base navale de Toulon. J'ai fait mon expérience en tant que chef d'équipe. J'ai l'occasion de retourner par la suite dans ma région Lorient pour 2 années où je découvre plus le milieu encadrant que le milieu élève en école, l'école des fusiliers marins. Or, ça permet de développer un peu le sens pédagogique, voir l'autre facette de l'école. Et après ces 2 ans où il y a un peu moins de missions, parce que oui, les premières années que j'ai effectuées, 7 ans, à Toulon, il y avait pas mal de missions, que ce soit l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest beaucoup, quelques missions sur des bateaux pour renforcer des équipes marines. J'ai pu également faire éléments de protection embarqués pour des bateaux civils Alors bon, pendant ces années-là, il y avait pas mal une grosse expérience là-dessus. Et bon, du coup, pour revenir après la partie en Bretagne, j'ai une affectation en Martinique, alors, où j'ai pu être affecté sur un bateau, une FS, frégate de surveillance, où là, hyper enrichissant. C'est un bateau qui a comme vocation à faire du narcotrafic. Et là, bah, c'est hyper épanouissant. On peut se retrouver dans un univers où il y a les bateaux de, je dirais pas chasse, mais Etraco, c'est ce qui est utilisé par les forces spéciales de la marine pour aller faire de la chasse au narcotrafic. Alors les go fast, tout ce genre de milieu-là. Et se retrouver sur ce genre d'embarcation et pouvoir être un soutien pour eux et découvrir bah, justement cet univers qui est quand même plein d'adrénaline. Enfin, c'est hyper stimulant. Et après cette partie de 2 ans en Martinique, retour Toulon parce que... Bah, on aime cette région, on veut y retourner. Et là, c'est la partie amphibie. Alors, la flottille amphibie, c'est un milieu où, si je devais imaginer un petit peu, ce qu'on peut voir la Seconde Guerre mondiale, où on voit des bateaux qui débarquent sur les plages pour sortir du personnel, du matériel, bah, la flottille amphibie, c'est un peu ça. Ils ont les embarcations qui permettent justement de débarquer du personnel, du matériel, du véhicule, tout ce genre de besoins pour les missions. Et j'avais un rôle de plongeur de bord, de faire des reconnaissances de plage. C'est la planimétrie, toute cette partie-là au fond de l'eau. Pour vérifier en avance de phase que justement l'embarcation ne se retrouve pas coincée au milieu de l'eau. Alors ça, c'est un peu la responsabilité du plongeur de vérifier ça. Et après ces 3 années sur un univers encore varié, bah, je me retrouve face à vous aujourd'hui à Abu Dhabi, dans le service général de la base navale.
Depuis quand est-ce que vous êtes engagé ?
Je me suis engagé il y a bientôt 15 ans, le 27 juin 2011.
Pourquoi est-il important de célébrer ce 400e anniversaire ?
Bah, c'est très important parce que c'est quand même 4 siècles d'histoire de la marine nationale. Il faut pouvoir rappeler que ce que nos anciens ont fondé est ce qui est devenu la marine aujourd'hui. Ce qu'on dira les 4 points dirais essentiels, ce qui en fait la citation, honneur, valeur, patrie, discipline. Et nos anciens ont réussi à perpétuer en fait cet héritage. Et pour nous, en fait, c'est un peu un honneur, un devoir aussi de ne pas les oublier. Et ouais, c'est une fierté pour nous marins d'être dans cette histoire-là.
Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait rejoindre la marine nationale ?
Renseignez-vous et si c'est bon pour vous, foncez. Faut pas hésiter si vous savez dans quoi vous orienter parce que, encore une fois, c'est hyper vaste. Ne pas prendre un métier sans savoir réellement ce que c'est. Mais dès que les idées sont claires, faut y aller, faut pas avoir de doute. Faut être par contre curieux, c'est important. Dans le monde civil, je suppose, hein, je connais pas vraiment ça, mais dans le monde militaire, en tout cas, c'est certain. Il faut être curieux, faut s'intéresser à tout. Et la carrière, c'est nous qui la faisons. Faut être curieux et puis faut y aller, quoi.
Avez-vous un souvenir ou une expérience marquante à nous partager ?
Des souvenirs pleins, des bons moments, les esprits cohésion, hein, quand on rentre matelot, comme je disais encore tout à l'heure, où on y vient tous avec un même état d'esprit, bah, l'envie de se découvrir tout ça, et on a les premières années où on terre stage commando, où on fait des terrains où c'est rude, où on ne dort pas beaucoup, il y a la fatigue, le froid, tout ça, et il y a un esprit cohésion qui se fait là-dessus. Alors ça, c'est pas des éléments marquants, mais c'est des moments en fait qu'on n'oubliera jamais. Et des amis, des liens se font par rapport à ça. Et après, en moment peut-être plus stimulant, bah, la partie où on est sur, comme je disais encore une fois, les tracos, où on se retrouve en pleine nuit, on voit même pas ce qui se passe autour de nous. On voit juste au-dessus de la tête les étoiles. Et on a une embarcation qui va hyper vite. On est une équipe, on est vraiment nombreux dessus. Alors on n'a pas de place pour se déplacer. Et puis on n'a pas envie de se déplacer parce qu'on se fait secouer dans tous les sens. Et on sait que à quelques nautiques de notre position, bah, y a un navire qui est plein de stupéfiants. Alors c'est un moment qui est quand même fort. On se dit, bah, là, on part pour quelque chose et pour la raison un peu pourquoi on s'engage, quoi. L'aboutissement, pour servir et faire quelque chose de grand. Et je pense que c'est un peu tout ça qui, en fait, c'est la carrière en soi qui est marquante.
Ici à Abu Dhabi, quelles sont les principales menaces maritimes actuelles ?
À Abu Dhabi ou sur le plan maritime, bah, actuellement, on entend tous un peu les actus sur l'Iran avec les Américains. Alors il y a vraiment une tension vis-à-vis de ça. Après, sur le plan maritime global, bon, il y a toujours la lutte contre la pêche illicite, le narcotrafic, et il y a aussi des conflits pour empêcher un peu les navires commerciaux de faire leur travail normalement. Alors il y a tout un spectre là-dessus sur les océans, il y a pas mal de choses à défendre.
Quelles sont les contraintes physiques et psychologiques liées aux missions en mer sur le long terme ?
La partie physique, bon, le marin sur un bateau, il doit faire vivre le navire. Alors, le bateau, c'est matin, midi et soir. Et le marin qui va avec, c'est pareil, les temps de pause, le sommeil. On est tous un peu impactés par ça. On a tous des secteurs où on doit le faire vivre et on ne peut pas se permettre d'avoir des nuits complètes, des temps de repos. En fait, on est tout le temps présent sur le bateau. Et ça, c'est une première physique. Après, forcément, les conditions. L'air salin. Ça a un impact sur la fatigue. On fait une sortie en mer, je pense que tout le monde l'a déjà vu, où en fin de journée, on est bien de retrouver notre chez nous. bah, le marin, son chez lui, c'est le bateau. Et après, la mer. Une mer 1, une mer 3, une mer 5. En tout temps, le bateau est dehors. Et bon, y a le côté mal de mer pour certains. Et même sans l'avoir, il y a une fatigue qui se fait. Alors ça, c'est sur le plan vraiment physique. La partie psychologique, je dirais, bah, l'absence. L'absence, on ne voit pas la terre. On ne voit pas nos amis, on ne voit pas nos familles. Chaque marin a une situation familiale qui est totalement différente. Mais chacun est sujet à cette fatigue psychologique. Et sur le long terme, c'est un peu ça, mais on a les escales pour souffler. Ça ne fait pas tout, mais on met le pied à terre et ça permet de décompresser aussi.
Comment est gérée la cohésion d'équipage dans des conditions opérationnelles difficiles ?
Pour la partie cohésion, sur les bateaux, il y a ce qu'on appelle des carrés, des CAF. C'est en fait une zone où on peut se regrouper pour manger. Il y a également la partie qu'on appelle la popote pour certains, où bon, il y a le frigo, il y a les canettes de coca, les jus de fruits en général. Et il y a des moments de pause dans la journée qui nous permettent de nous retrouver. Alors, c'est des trucs qui sont très simples, mais rien le fait de couper un peu avec notre travail et de se retrouver, parce qu'on a beau être dans un bateau qui est assez petit pour certains, et bon, même plus gros pour d'autres, on ne se voit pas tant que ça. Il y en a qui sont dans les moteurs, d'autres dans des bureaux. Et on dirait que c'est ce moment-là où on se retrouve, que ce soit le temps du midi, du soir. Ouais, ça crée une petite cohésion là-dessus. Le commandant, occasionnellement, il peut proposer des journées du dimanche, parce que oui, on bosse du lundi au dimanche, et après ça continue. Bah, occasionnellement, pour une relâche opérationnelle, il va annoncer une journée du dimanche. Alors on pourra se lever plus tard, pour ceux qui le souhaitent. On pourra participer à des activités de cohésion, justement, où ça peut être des activités sportives qui peuvent avoir lieu dans une plateforme hélico. C'est des gros hangars qu'on peut avoir sur certains bateaux. Le football, le volley, le badminton, enfin diverses activités. Et en règle générale, il y a toujours un bon repas. Alors ça peut être un barbecue, si les conditions de mer nous le permettent. Parce que, bien sûr, s'il y a de la gîte, on va éviter de faire un barbecue. Mais il y aura toujours ce moment un peu privilégié aux marins pour souffler. Et encore une fois, bah, les escales, c'est très important aussi pour le marin de pouvoir souffler.
Pour finir, quel est l'impact du rythme des opérations sur la vie personnelle des marins ?
Alors pour les marins, comme je disais tout à l'heure, chacun a une vie personnelle un peu différente, mais selon les bateaux, il y a un rythme qui est très élevé. Et je dirais même que ça s'est accentué avec le temps. Ça fait quand même pas mal d'absences, pas mal de temps où on peut se retrouver loin de chez nous, loin de nos familles, loin de nos enfants. Moi, en exemple, en Martinique, quand mon enfant est né, alors du coup, ouais, c'est un petit Martiniquais, et sur les 6 premiers mois de son existence, je l'ai peut-être vu 2 mois, pour être optimiste. Sûrement moins, mais bon, je reste figé sur 2 mois, sur 6, et c'est un moment où chaque moment, il y a un peu charnière, on a envie d'assister à ça. Alors, il y a des vraies contraintes personnelles, mais après, c'est un engagement. Si on ne le savait pas, bah, on ne s'engagerait pas là-dedans, et voilà, mais il y a une contrainte, oui, ça c'est avéré.
Merci beaucoup, Monsieur Pelletier, d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions et de nous avoir fait découvrir les coulisses du métier de marin dans la Marine nationale. À travers votre parcours et vos expériences, on comprend mieux les exigences de cet engagement, mais aussi les valeurs fortes de solidarité, de courage et de service qui animent celles et ceux qui choisissent cette voie. Votre témoignage donnera sûrement envie à certains élèves de s'intéresser de plus près au métier de la mer, peut-être qui sait, de s'engager un jour à leur tour. Merci encore pour votre présence parmi nous et merci à vous, auditeurs, d'avoir suivi ce podcast.